Un domino, c'est très biblique ce que vous nous dites. Vous nous dites les derniers peuvent être les premiers. C'est-à-dire que là où il y a un retard, puisqu'il y a un retard, bah, finalement ça peut être un temps d'avance sur la manière d'envisager, d'envisager ce produit. Donc c'est un succès en termes de fréquentation, Jean-Marie Gauvet nous l'a dit. C'est un succès dans les transformations en termes de gouvernance, dans les transformations en termes d'image et d'identité, dans les transformations de l'espace public et dans les transformations urbaines, puisque le corridor du tramway, tel qu'il a été défini dans le PLU de 2011, a généré une production de logements tout à fait remarquable dans sa quantité. En tout cas, et l'effet tramway a joué à plein sur l'urbanisation et le renouvellement urbain de la ville. On pourrait s'arrêter là et se dire, mais vraiment, c'est très très bien. Moi, j'ai quand même une question à poser à nos experts. Je prends souvent l'exemple bordelais. Bordeaux, 1 milliard d'euros plus loin, 1 milliard d'euros investis dans les 4, je ne sais pas combien, 4 lignes, et puis les trous, il commence à être compliqué. Hein. 1 milliard d'euros plus loin, la part de marché des transports collectifs n'a pris qu'un point. Dit autrement, est-ce qu'en concentrant l'ensemble de nos intelligences et de l'argent public de plus en plus rare sur le seul transport en commun lourd, le tramway, le métro ou le bus à haut niveau de service, est-ce que quelque part on ne s'attache pas au visible sans apporter de véritables solutions à un système de mobilité ? Où très clairement aujourd'hui le développement des villes se fait en dehors d'elles-mêmes, la caractéristique du développement urbain contemporain c'est la périurbanisation, on peut le regretter, on peut faire des lois en changeant le code de l'urbanisme tous les 6 mois pour essayer de le condamner, c'est comme ça qu'aujourd'hui s'exprime l'urbain, c'est par sa dilution et sa diffusion, et évidemment ça génère des besoins en mobilité extrêmement prégnants. Donc je voulais avoir votre réaction sur la place que peut avoir ce système de transport extrêmement lourd dans un système de mobilité globale, en constatant, alors, à travers l'exemple bordelais, finalement, alors ça serait probablement bien pire si rien n'avait été fait, mais en constatant simplement que ça ne change pas radicalement les parts modales. Donc pour les non-experts, les parts modales, c'est la répartition des déplacements selon les différents modes. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple, Strasbourg, qui est le top en termes de transport collectif, en tout cas de part modale des transports collectifs dans les mobilités, ce ne sont que 14% des déplacements qui se font via les transports collectifs. Je la reformule encore autrement, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas un effet écran de ces grands objets urbains que sont les tramways, par rapport à des mobilités qui continuent finalement à se faire selon des modes très usités, qui sont le véhicule avec 1,2 personnes en moyenne à l'intérieur. Monsieur Beauvais.
Je répondrai à la question, est-ce que la politique de mobilité se résume au tram ? Bien évidemment, le grand défenseur du tram, je dirais non. Et notre association, je fais un petit couplet sur notre association, l'a bien compris, puisque c'est une association pour le développement du tram en Touraine, et maintenant c'est une association pour le développement des transports collectifs en Touraine. On veut dire par là qu'on s'intéresse au tram, oui, mais aussi aux bus, aux autocars, aux TER. On élargit vraiment l'intermodalité. Alors, l'exemple de Bordeaux, on a dépensé 1 milliard et on a gagné 1 point par modal. Attention, lorsqu'on utilise ce slogan, certains pourraient penser, en déduire, bon, ben alors, en effet, c'est inefficace, on ne fait rien. Alors, je veux d'abord revenir un tout petit peu sur les définitions. Un milliard, c'est en effet l'ordre de grandeur, si on prend 40 km pour un réseau, hein, et à 25 millions du kilomètre, on arrive bien à 1 milliard. À Tours, on n'en est pas encore à 40 km. Mais on a tendance à compter dans le coût, non seulement le matériel roulant, l'infrastructure, mais l'embellissement de la ville. Et on ne crache pas du tout sur l'embellissement de la ville, hein, je crois que c'est très important, mais ça devrait relever d'un autre budget. Il y aurait le budget de transport, et puis il y aurait le budget de patrimoine urbain. Alors, du coup, on arriverait à des coûts au kilomètre déjà plus faibles. Alors ça, c'est pour le numérateur. Pour le dénominateur, la part de marché qui a quasiment pas stagné, disons, elle a peut-être stagné au niveau de l'ensemble de l'agglomération, mais si on se limite au couloir desservi par le tramway, je pense qu'elle a vraiment augmenté. Donc, l'impact est loin d'être nul. Mais bon, ça c'est pour préciser les définitions. Mais sur le fond, il me semble que, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire si on n'avait rien fait, ça serait pire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent dans l'autre sens simultanément. Et comme dans beaucoup de phénomènes, je veux dire, on est dans une université, on a l'habitude de raisonner avec des problèmes multifactoriels. Le premier, je dirais, c'est que le prix du carburant a baissé de 25%, pour prendre des chiffres entre 2008 et 2016, le prix réel du carburant. Donc ça facilite l'utilisation de la voiture. Et parallèlement au tramway, la deuxième raison, c'est que parallèlement au tramway, on a beaucoup investi dans le domaine routier. Alors, non seulement les ménages, mais aussi parce que le carburant, ça ne concerne pas tellement les acteurs locaux, mais j'en viens un peu aux acteurs locaux. On a beaucoup investi dans les infrastructures routières. Je parle en général, pas forcément à Tours, hein, c'est peut-être à Bordeaux aussi, dans des périphériques, dans on ajoute une voie supplémentaire, ça c'est pour l'infrastructure. Et le stationnement, il arrive qu'on multiplie les parcs de stationnement, mais quelquefois dans des espaces assez centraux. Donc ça c'est l'infrastructure. La troisième. Alors voilà. Voirie, stationnement, il faut aussi en parler. Et c'est-à-dire, tout simplement, il faut avoir une politique globale des transports, pas uniquement limitée au transport collectif. Donc, transport collectif et individuel. Et la troisième raison, c'est que parallèlement, on a continué à distribuer des permis de construire dans des endroits où, manifestement, ça sera très difficile d'aller en transport collectif. Et donc, les ménages qui vont aller s'installer là-bas, ils auront deux voitures. Et quand ils viendront en ville, ils viendront en voiture. Et je vous demande si ce phénomène de périurbanisation n'est pas en poids beaucoup plus important. Et donc, c'est pour répondre toujours à la question posée, c'est non seulement une politique de transport, mais une politique... Alors voilà, d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Et il ne faut pas se limiter à une politique du transport, plus audacieuse. Il faut prendre en compte l'ensemble des modes, et transport et urbanisme. Et le « et » est très important, parce qu'autrement, on est confronté à des effets pervers.
Merci. Jean-Luc, sur cette question mobilité collective versus mobilité individuelle.
Alors, effectivement, quand on parle de stagnation du transport en commun, c'est en valeur, c'est en relatif, mais en absolu, le nombre de déplacements augmente. Voilà, la société, la mutation sociologique urbaine, avec la carrière d'organisation, etc., c'est que le nombre de déplacements augmente. Donc, proportionnellement, le nombre, même si ça stagne, le nombre de déplacements par les transports en commun augmente aussi. Pourquoi je dis ça? C'est que de toute façon, il y aura toujours besoin de transports, ce qu'on appelle de masse, c'est-à-dire métro, tram, train, VHNS, il y aura toujours ce besoin-là. Donc de toute façon, ça c'est nuable, il y aura toujours du TCSP, transport en commun aussi propre, et il y aura toujours du tramway, la preuve, parce qu'il faut transporter de façon massive et capacitaire, avec du matériel capacitaire, la personne. Après, sur la part modèle de transport en commun, effectivement, au jour d'aujourd'hui, ça stagne. Donc il y a des réflexions qui se font sur des leviers potentiels. Et un des leviers potentiels, on voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui sur la mobilité au sens large, sur la notion de développement durable, l'électricité, la connexion, Uber, etc., c'est qu'un des enjeux, un des nouveaux leviers pour qu'il y ait une augmentation de la mobilité partagée, c'est que le confort de la mobilité individuelle, c'est-à-dire ben, voilà, dans sa voiture, doit aller vers une mobilité partagée. Voilà, y a pas, le confort n'est pas que pour la mobilité individuelle, et que la mobilité de masse, c'est-à-dire le tram, doit elle aller vers l'agilité de la mobilité individuelle. C'est-à-dire, l'agilité, c'est il faut que je sois informé en temps réel, comment je peux me déplacer, avec un réseau maillé, la gestion, c'est tout bête, des réclamations. Uber, vous avez un problème avec Uber, 3 minutes après, vous êtes remboursé. Sur un réseau de transport, vous avez une réclamation dans un tram, ça s'en prend plutôt peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois, voire même jamais. C'est ça qu'on appelle l'agilité. Donc aujourd'hui, l'avenir des transports, de la mobilité, des problèmes de mobilité, c'est un nouveau maillage, c'est une nouvelle conception de la mobilité entre les mobilités individuelles qui deviennent partagées et les mobilités de masse qui doivent, elles, prendre cette agilité-là. Voilà, ça c'est un des leviers. Par contre, sur ce qu'on appelle les projets de mobilité au sens large, transport de masse. Alors c'est masse transit, transport de masse, ça fait pas beau. Mais à certains moments, on a toujours besoin de ce transport de masse. 17 projets de tramway, 7 projets de 7 lignes de métro. Pourquoi ? Un tramway, moins un tramway, 300-400 personnes. On va dire 400 personnes. Un BHNS, 150 personnes. Fois 2 déjà. Mathématiquement, c'est simple. Une voiture, même partagée. Un taxi, autre, 5, 10, 8 personnes. 50 voitures. Une voiture fait 3 mètres de long, un tram fait, voilà, 150, 150 mètres de long. Donc mathématiquement et géométriquement, il y aura toujours besoin des transports de masse. On a beau dire ce qu'on veut, que ça soit connecté, il faut de l'autonomie, il ne faut pas de chauffeur, etc. Mais physiquement, enfin, mathématiquement et géométriquement, c'est clair. Il en faut. Sauf, alors, encore une fois, en deux dimensions. Si on rajoute en trois dimensions, c'est autre chose. Mais là, on n'est plus dans le 21e siècle, on est peut-être dans le 22e siècle sur à travailler et à faire des machines volantes. Mais quand on parle de mobilité, de transport de masse, il y aura toujours ce besoin-là. Par contre, on est rentré dans une nouvelle ère où, comme disait M. Beauvais, de toute façon, les énergies fossiles, il n'y en aura plus. Donc, ce sera électrique. Les prix, on ne sait pas trop, mais on est sur la mobilité. Ce sera sur la connexion. Voilà, ce sera, moi je vais un tram, comment je me déplace d'un point A à un point B. Donc la mobilité sera multiple. Donc il faut que les transports de masse puissent se projeter sur cette façon d'utiliser l'évolution sociologique d'une société dans son sens large. Vous voyez, on est quand même très... Et ça, c'est la nouvelle mobilité, c'est la nouvelle mobilité du 21e siècle. On a besoin physique et mathématiquement des transports de masse. Maintenant, comment ces transports de masse s'intègrent sur cette nouvelle façon de vivre et de se déplacer?
Merci. Donc, si j'en crois vos deux, j'essaie de résumer. Finalement, Jean-Marie Beauvais nous dit la place du transport collectif dans le bouquet des mobilités, elle est aussi dépendante d'une part de la macroéconomie, prix du pétrole, etc., et d'une stratégie partagée d'aménagement du territoire. Évidemment, il serait temps que ce territoire dispose d'une agence d'urbanisme et qui travaille vraiment. Et Jean-Luc Paroissien, finalement, il est dans une sorte de point de convergence en nous disant qu'il faut collectiviser le déplacement individuel, le partager, pas apparaître comme une sorte de collectiviste, et il faut individuer le transport collectif. Et finalement, c'est dans cette plateforme commune qu'on va réussir à tisser et à mailler une offre qui soit vraiment efficiente.